Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
I laughed. I laughed so hard the room shook. The plates of the earth shifted. The tides changed. I laughed and laughed and laughed. And then I bent over and I screamed.
J'ai ri tellement ri. J'ai ri si fort que la pièce a tremblé, que les plaques tectoniques ont bougé, que les marées ont changé. J'ai ri et ri et ri, et puis je me suis penchée et j'ai crié. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Nina McLaughlin à l'occasion de la publication de son ouvrage « Sirène debout, Ovide rechanté » aux éditions La Volte. Nous sommes accompagnés de Cécilia Lopez à la traduction. C'est parti. Bonsoir Nina.
Bonsoir.
Bonsoir Cécilia.
Bonsoir.
Bienvenue à l'Affranchi pour ce moment que nous allons partager ensemble autour de la traduction de Sirène debout, Ovide rechanté, publiée chez les formidables et merveilleuses et incroyables éditions La Volte.
Hi, welcome. Thank you for being here. We're now going to start reading the beautiful book that you have written and published by a French edition, Sirène debout.
Ce livre qui va être en fait quand même une sacrée expérience de lecture puisque Nina, tu as réécrit, rechanté les Métamorphoses d'Ovide. Donc qui est quand même, je crois qu'on peut dire, un des livres les plus connus et lus au monde. Pourquoi on se dit, allez, je rechante Ovide?
What a beautiful and amazing experience of reading this novel. You've written this very impressive and massive metamorphosis and rewritten it of Ovid. It is an amazing book, but why have you chosen it and why have you decided to rewrite it?
Firstly, thank you so much, both of you. Thank you so much for having me. Thank you all for being here. I think that it wasn't so much an active decision for me. It didn't feel like a choice. It almost more so happened. I was trying to get my writing muscles back in shape, and I was reading through the Metamorphosis, and I started rewriting the story of Callisto. And just as sort of practice, and it started, I am a bear, I live in the sky. And something happened, something sort of flipped on. And from there, it just sort of took over. And so this came out in 3 months. It happened very quickly. And it was as though I sort of disappeared. I sort of went away. It was a bit like a sort of a trance state, it sort of felt like. And so it didn't feel like a decision, it felt like an accident and a happening.
Merci à tous d'être ici. Pour répondre à ta question, alors ce n'a pas été une décision active, ça s'est juste passé. J'étais dans une période où j'avais besoin de réactiver mes muscles d'écriture et de les remettre en route. Et j'ai commencé par écrire Callisto, et je me suis entraînée avec ce récit-là. Et j'ai commencé par écrire Je suis un ours. Et ensuite ça s'est passé, en 3 mois. Et puis j'ai disparu. J'étais en transe.
3 mois, mais ça paraît fou. Bravo. Parce que
merci.
Il y a quand même vraiment beaucoup de matière, mais la chose évidemment la plus importante et d'autant plus ici, c'est le female gaze que tu utilises dans ton écriture, c'est-à-dire que oui, tu le réécris, mais en plus, en fait, tu te mets dans la peau de chacune des personnes principales, des héroïnes, des déesses, des nymphes. À chaque fois, en fait, on va avoir un autre endroit de narration. Ça a dû... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a été une sorte de marathon, en fait, cette affaire. Ça a dû être extrêmement éprouvant, non? De se mettre dans la peau de ces femmes.
Wow. 3 months. A lot of material put into a temporality of 3 months. The most important thing would be the female gaze. When you rewrote it, and you put yourself, did you put yourself in their positions? Did you put yourself in their minds? And it seemed like a marathon.
So it felt more than anything like an act of listening. So I would read through a story and just try to hear what the character was saying, what the figure was saying. And it was this sort of close attention, because on the surface, many of these stories sound the same. A nymph is chased and either punished or saved by being turned into a rock or a tree. And so I was looking for the tiny details and sort of seeing where that took my mind. And so I would go for these long runs and just listen and sort of hear not only what the figures wanted to say, but also how they wanted to say it. So some of them talk the way you and I would talk in a sort of modern register. And others are in sort of a more epic kind of tone. So yeah, so it was just this quieting and letting their voices kind of come in.
Ça me semble être un acte d'écoute. J'essayais d'écouter les personnages et de me taire moi. De payer une attention précise et très proche. Elles sont toutes punies à travers ces récits. Donc j'ai fait attention aux détails. J'ai écouté. Et écouté plus comment elles voulaient parler plus comme elles ne parlaient. Et certaines d'entre elles étaient modernes, comme vous et moi, pendant que d'autres étaient très épiques et très dans la dramaturge.
Et d'autant qu'en fait, puisque l'on va passer d'une sorte de portrait à l'autre, c'est chaque figure mythique va avoir son texte assez court, plus ou moins court, très court, ou un peu plus écrit, plus en longueur. Mais à chaque fois, en fait, l'endroit d'écriture est différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas raconter de l'histoire du même angle, du même axe. Et ça va être, par exemple, un groupe de femmes qui va parler d'une autre personne. Donc je pense à Sphinx, où ce sont les nymphes de la rivière qui parlent d'elle. Mais ça va être aussi parfois la personne elle-même. Enfin, alors je dis personne, le personnage, la figure mythologique. Mais en tout cas, qui va s'adresser, ça va être du dialogue. Ça peut être quelque chose de l'ordre de la poésie. Ça va être des choses de la rage. Ça va être... En fait, chaque personnage va vraiment avoir son endroit très spécifique. Et donc, le fait de se dire que tu les as entendus, tu les as écoutés, il y a quelque chose vraiment de... En fait, tu as été une sorte de filtre. Comme ça, pour leurs paroles, c'est hyper touchant.
You go from a portrait to another with different lengths and sizes. I mean, the place of writing is always different. You go from groups of women to, for example, in Sphinx, the different nymphs, the group of women who are speaking together. And sometimes you go from dialogues to monologues with a unique character, and each character has its own specific place. It feels like you are a filter for this.
Mm. Filter seems like a really good word, that it was sort of being this, a little bit like a vessel for these voices, that it was, again, like I myself sort of went away, and these women sort of appeared, which again, it sounds crazy when I say it out loud, but that's really how it felt. Yeah, and again with the different tones, it was this sort of how does the story want to be told? And you mentioned some of these stories with told in sort of a we perspective, a group of women speaking at once. These were a deep pleasure to write. There was something really powerful about sort of all of the women speaking, sort of being on a team and speaking together, and some. Monologue is also a perfect word for it. They do feel like here is this one person speaking their version of the truth.
Alors, filtre est le très bon mot. C'était comme une capsule. J'étais comme dans une capsule pour ces voix. Je suis partie de mon corps. Je n'étais pas là. Ça peut sembler fou, mais c'était exactement comme je le sentais. Il y avait différents tons. Et c'est très vrai. Comme une histoire veut être dite, c'est aussi un plaisir à l'écrire, et surtout et en particulier quand ce sont plusieurs femmes ensemble, et cette unité-là entre ces femmes-là. Et le monologue, comme c'est très bien dit, est aussi une autre version de cette vérité-là qui a été dite.
qui est d'autant plus fort, parce que là, on a parlé de limites de la technique d'écriture, d'une façon dont on raconte, donc des dialogues, des monologues, etc. Mais il y a aussi toute une, la question de la narration de ces violences sexistes et sexuelles, parce qu'en fait, bon, bah, mettre les vrais mots, c'est ça. C'est-à-dire qu'Ovid, il va quand même écrire une œuvre qui va beaucoup parler de ces violences faites aux femmes. Et il y a cette fameuse question, alors je l'ai lue, posée par une journaliste, je ne sais plus où, mais qui disait « Mais que fait-on de ces mythes qui démarrent quasiment tous par des viols ?» Enfin là, on est quand même sur un truc assez affolant de se dire qu'on a 15 chants, donc 15 écritures, qui ne commencent que par ces violences. Et donc, de trouver une façon de parler de ces violences différemment et sous cet autre axe, on est vraiment sur un livre extrêmement militant. Moi, je trouve qu'on est on est au cœur de ce que la narration peut faire comme accompagnement, en fait, dans la révélation de ces violences faites aux femmes.
What is even stranger in these techniques, and which is linked to the question of sexism, misogyny, patriarchy, and everything that is intertwined and interlaced to this, is this main theme. There's also a journalist who said that, who said, what should we do with all of these myths starting with rape and violence? And that is where your rewriting starts. It is at the heart and at the center of an activist and militant rewriting and criticism of it.
Yeah, and it didn't feel like that when I was doing it. It didn't feel like this active choice to say, all right, I'm gonna take this stance. Again, this sort of feeling of it being beyond me. And I think that there is this uprising that occurred. I think that it was an answer that I didn't know that I needed to give against some of this stuff. Like, I think some of it had just been living inside me the way I think it lives inside us without us necessarily knowing. And it reached that boiling point where it came out. And with Ovid, you know, I mean, these stories, I think when I was learning them in college, we didn't discuss the violence at the base of it. It just was not spoken about. And so there was this language, this euphemism, you know, deflowered, attained her love, seduced. And it's like, no, that's not what was happening here. Like, this was rape, you know, this was real acts of violence. And the fact that it's in this euphemistic language and not spoken about, it can kind of gloss over and you can think, oh, this is just the way that things are. And that is a problem. It's a big problem. And again, I wasn't aware when I was working on it about that. I sort of, the awareness happened much, much like now, you know, afterwards.
Alors encore une fois, cela ne paraissait pas comme étant cela. Quand je le faisais, ça me dépassait. Il y a un mouvement, quelque chose en ébullition qui sortait et qui croîtrait en moi. Je ne savais pas que c'était une réponse que je devais apporter et donner. C'était encore une fois une ébullition qui sortait. Quand j'étais à l'université, on ne parlait pas de ces choses-là. Des termes comme « défleurée »,« séduite » et ainsi de suite, ce sont des euphémismes qu'on utilisait pour des scènes de viol, pour du viol. Et ceci nous traversait à la fois, nous passait au-dessus. Et ce n'est que maintenant que je réalise tous ces euphémismes et ce lexique-là qui t'a retravaillé.
Oui, c'est ça, parce que là, directement, moi, ça me fait penser à tout le travail qui a pu être fait ces dernières années sur la romantisation des violences, où généralement, bah, les contes, les mythes, tout ce langage, en fait, qui tourne autour des princesses, des déesses, de ce merveilleux, en fait, ça permet de cacher énormément de scènes de violence qui, de fait, passent pour des preuves d'amour. Et donc, là, toute la façon dont tu as repris ces histoires, c'était en fait de les rendre extrêmement réelles. Mais vraiment, on est dans une hyper-réalité, ce qui fait que certaines peuvent être difficiles à lire, parce qu'on en est face à des choses... Tu ne prends pas de gants, en fait, tu y vas à 100%. Quoi. On a tout le détail, on a les choses crues, et c'est peu habituel quand on parle de mythes.
This makes me think of the romanticization of violence. And the perfect example for this is with princesses, which a lot of them endure violence. And all this violence is disguised as love. And you made this extremely real. You made all this violence crude. You were there 100%, which is unusual for a myth.
A woman last night at an event I did asked me, do you think that myths can change the world? Do you think that they can change the way that we interact with each other? And do you think that these retelling of these stories can actually enact change? Or are these ancient myths that we've been living with, is it just like men are men and women are women and violence is violence and it will always happen? Which I think is, you know, it speaks to that question. Violence is violence, and I think there will always be violence. And it felt important to name it and to not gloss over it, because it is vulgar and it is disgusting. And all of those terrible things. And it can also be, again, I think I hope what I get across too is that it doesn't have to be the end, that there can be joy, laughter, transformation after violence. And I think that the thing that I said to the woman last night was that, yes, I think that violence will always exist. That's I think, a fact about humanity. What can change is how we talk about it, how it's dealt with, and how we can reckon with it both individually and as a society.
Une femme hier m'a demandé, penses-tu que les mythes changent le monde? Ou penses-tu qu'au contraire, les hommes sont les hommes et resteront les hommes, et les femmes sont les femmes et resteront des femmes? La violence est la violence, et il en sera toujours ainsi. Elle est vulgaire, elle est dégoûtante, donc il faut la nommer. Et ça n'a pas à être la fin. Il peut y avoir une transformation, une évolution. Ce qui peut changer est la manière dont on en parle et comment l'accueillir et comment la faire se mouvoir au sein de notre société.
Ça me fait penser, parce que j'ai essayé de prendre des extraits en fait, de certains des personnages pour illustrer en fait, ce qu'on était en train de dire. Et là, d'une certaine manière, ça permet aussi de rebondir avec ce que disait Tirésias. Donc je vais le dire en français. Ce qui existe dans votre monde est l'écho et l'ombre de ce qui existe ici. Plus léger, plus faible, mais néanmoins vrai. Il y a quelque chose de la mise en abîme ici. C'est-à-dire que Tirésias, qui est un personnage que tu réécris, Tirésias nous donne en fait un indice de compréhension en fait, dans ce côté réel, irréel, avec cette réplique-là. Il y a vraiment ça, c'est de nous dire, mais en fait, ce que vous êtes en train de lire, c'est un reflet de ce que vous vivez, de ce que vous faites subir ou de ce que vous subissez. Enfin, c'est un truc de dimension là qui est quand même assez intéressant.
So she took some of the passages, and the one she's focusing on presently is Tiresias, and it starts with what exists in your world. I couldn't write the rest of it. What exists in your world?
What exists in your world is echo and shadow of what exists up here, dimmer, fainter, but no less true.
Well, that passage, she was saying that it feels like it's a story in a story. Mm. And that there is a reflection, and that his perception is an offering of a way to see the story. He gives a clue of comprehension of what is real and what is unreal. It's a reflection.
Yeah, it's a tricky one. So he's speaking as a god, and I think the thing about it is that the gods are as flawed, if not more so, than we are, because they have no... there's no repercussions. They can do whatever they want. And they don't die. And so I think for me, thinking about it was the fact that we all die makes the stakes much higher. And in some ways creates a mortal life with more heat and intensity. Even though the gods have all these powers, we're here sort of burning away because it's very short. And I think this will be a little bit of a digression from your question, but I think that when I think about transformation, which I think this book is about how to be at home with change, it is this idea that we all are going to die. I mean, this is sort of that's sort of the ultimate transformation. And that, I think that quote gets a little bit at that heart of it, that there's a limit here. And the intensity of those limits. That's a good question. That's a difficult question. Yeah, no, great. Love it.
Alors c'est compliqué, parce qu'il parle en tant que dieu. Et les dieux ont tous des très gros défauts. Il y en a qui... Des très gros défauts. Et il n'y a aucune répercussion. Chaque chose qu'ils font n'a aucune répercussion parce qu'ils ne meurent pas. Alors que contrasté à cela, le fait que les humains et humaines meurent rend justement nos vies, et les vies dans le livre, plus intenses, avec plus de chaleur. Et de la perception des dieux, du coup, les humains sont des petites choses qui sont en train de brûler et qui vont mourir. Et petite discrétion, mais qui n'en est pas une, je pense, ce passage est aussi qu'on va tous te mourir. Il montre en fait qu'on va tous te mourir, et cette citation montre que la vie, elle est très courte, et qu'on va brûler, l'intensité qui vient avec ça et ce qui est traduit dans ce passage.
De ce fait, tout de suite, en fait, ça me fait penser à, puisque ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot de transformation, donc en effet, les métamorphoses d'Ovid, c'est un petit peu le point central de l'affaire, c'est qu'à chaque fois, il y a un endroit de ce fameux changement, de cette... la déesse, la nymphe, le personnage est dans un état, et pour survivre, ou comme tu le disais tout à l'heure, ou parce que c'est la fin annoncée des dieux, va se transformer en autre chose. Et donc cet endroit-là, en fait, des métamorphoses, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on peut le lire en effet par rapport à Ovid, mais on peut aussi le lire par rapport aux conséquences des violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire que la fameuse phase de dissociation, cet endroit où, en fait, ben, pour survivre à nos traumas ou à ce qui est en train de, l'horreur de ce qui est en train de se passer, ben, il y a cet endroit où on n'est plus vraiment là, en fait, et on se le disait juste avant, c'est qu'on peut être là sans être là, c'est que physiquement on est présente, mais qu'on trouve un échappatoire, et que là, en fait, malgré lui, en fait, Ovid nous a quand même proposé pas mal de récits de ces endroits-là dissociatifs, en fait. Se dire, Daphné, elle devient un arbre. Il y a quand même des endroits qui peuvent être, je trouve, reliés très fortement à toute cette étape de dissociation. Donc même s'il écrit des choses horribles, en vrai, peut-être qu'il nous apporte une certaine façon de voir une solution pour échapper à tout ça. C'est peut-être un peu touchy, cet endroit, mais je trouve qu'il y a un truc à aller chercher là-dedans.
Transformation. This word shows the place in this book where change happens, and to survive, this change occurs as a metamorphosis. I like that we could read it as a metamorphosis of Ovid, but at the same time as a consequence of violence, and there comes after violence dissociation and associative disorders. To be there and not to be there, which is in strong linkage and bounded to escapism and escaping. Ovid offered this reading, and it may be bold to say this, but he offered this reading into dissociation. So there is a strong linkage, there might be. And he might have offered in his writings and in our readings of a solution of escape.
Amazing question. amazing, amazing. Yeah, so Daphne is a really good example. Daphne is being chased through the woods by Apollo. And to save her from getting raped by Apollo, I think it's her father changes her into a laurel tree. And so she's there. I mean, you've probably seen examples of this in art, famous sort of retelling. So she's becoming a tree. Apollo is still sort of saying, "You're mine. The laurel leaves are now going to crown my head for victory." And it's very ambiguous, the final moment in the actual metamorphosis is that she's swaying her leaves, you know? And so I still feel, mixed on how to interpret that, the ambiguity of it, that there is this, her own victory. You can't touch me, you know? I'm a tree, like, you didn't get me. And also, like, a great sadness, you know? A really profound sadness that she has now lost her sort of human form and she's transformed into a tree and can't speak and is no longer sort of a human self or soul. And so there is that, like, presence and absence simultaneously, and a way to exist within that is a protection. When you encounter something that is truly unbearable. And it's amazing because I had not thought of that as Ovid offering that, that version of it, that, and that's such wisdom, you know, I think without, I'm sure, well, who knows if he knew it or not, but that like, again, this sort of, these stories are so human. And so even if he wasn't aware, he is presenting something that is true to experience. And so you have just actually expanded my mind about this. So, merci. But yeah, it is this idea of, you know, in waving her leaves, you know, is she trying to say, like, I triumph, or like, you got me anyway, you know?
Incroyable. Daphné est pourchassée par Apollo, et du coup ça c'est l'exemple que je cite, et pour se sauver, son père la change en laurier. On peut d'ailleurs voir de nombreuses représentations de cette transformation-là, de cette métamorphose dans l'art. Et Apollo, il lui dit qu'elle est quand même sienne, qu'elle lui appartient, et qu'il fera d'elle une couronne de laurier pour lui. Et je suis partagée entre dire que le fait qu'elle soit arbre et signifie qu'on ne peut pas la toucher, qu'elle se sent intouchable, et à la fois de sa perte en tant qu'humaine. Elle perd son repère d'humanité, son ancrage dans cette humanité-là. Donc il y a, comme tu dis d'ailleurs, cette présence, cette absence simultanée. C'est du coup cette présence, cette absence, c'est une manière d'exister à l'intérieur quand on ne peut pas exister à l'extérieur. C'est une fuite. Et quelle sagesse! Je n'avais pas pensé à cette interprétation-là, merci. Ovide présente quelque chose de lié à l'existence. Et merci d'étendre le champ de pensée, le champ de mes pensées. Mais je reste partagée entre Daphné, elle essaye, et à la fois, elle est attrapée.
Oui, mais dans ta réécriture, elle lui dit, attention, non mais j'adore, vraiment, elle dit donc, fourre ta bite là-dedans et tu récolteras des échardes. Là, franchement, c'était la meilleure façon pour Daphné de reprendre la main. En fait, elle voit bien que oui, elle est absente, elle se cache au monde, mais elle devient d'une certaine manière dangereuse à son endroit. Tu lui rends une certaine dangerosité par rapport à Apollon. Moi, j'ai trouvé.
But beware, in your rewriting, she does say, jam your dick and you will get splinters of my tree. I don't know if I can really record.
Yeah, no, that's about right.
She sees that she's absent, but in a way she becomes dangerous, and you attributed her this dangerosity, yeah. In a way.
Yeah, definitely. I'll stick your dick in this and you'll get splinters. Yeah, so there is, I mean, so she, I think there is that, like, that power, you know, like she knows now, like, yeah, like go ahead, you know, almost daring him, knowing what she is, knowing what she can be, and that sort of power, even in that present absent state, is possible. And there's, I don't know, I mean, I you know, there's bravado, you know, there's a boldness to it. And I think a recognition, again, a recognition of her own power.
Ce pouvoir, elle sait.
Quand elle dit « viens ici », elle sait ce qu'elle est et elle sait ce qu'elle peut être. Et même dans cet état, elle est en pleine conscience de ça. Il y a du... Je l'ai en italien, mais pas en français, je sais pas pourquoi. Il y a du brava. Oui. Et une reconnaissance de sa peur.
Parce que ce côté bold, ce côté audacieux, femme forte, en fait, c'est là aussi où on a quelque chose d'extrêmement fort dans ton écriture. C'est qu'en fait, on a tendance à penser ces figures mythologiques, ces femmes dans la mythologie, comme un petit peu... évanescentes, belles et douces, victimes. Enfin, elles ont rarement la parole. Donc c'est exactement ce que tu as fait. Tu leur as donné la parole et on va se rendre compte qu'elles sont. Elles peuvent être rustres, elles peuvent être brusques, elles peuvent parler fort, elles peuvent bousculer. En fait, tu leur donnes une représentation beaucoup plus. Alors j'ai envie de dire humaine. En fait, au final, c'est-à-dire qu'elles sont plus entières que ce que Ovid a pu écrire. Et on va même aller, et ce sera un peu la suite, mais je vais déjà laisser traduire ça, vers un sacré humour et beaucoup de cynisme, en fait. Elles vont nous faire rire. Parce que là, on a parlé beaucoup de choses dures, mais elles vont aussi beaucoup nous faire rire, quand même. Mm.
This side of her, this side of these women, this brave part, there is a strong part of this rewriting of yours where we could expect... when it's not your writing, of metamorphosis, to consider these women in a soft way, a tender way, with no voice and unempowered. Whereas in your rewriting, it's quite the contrary. They're brave, you gave them voice, you gave them intensity and dimension. They have humor, and I'd like to speak about this humor that made us laugh.
Mm. Yeah. I mean, I think that to me feels like an important part of it. The ability to laugh afterwards, you know? Because all of us will have tragedy in our lives, loss, trauma, no matter what. That's the nature of existing. And there's grief, and that there's a moment where you can just say, wow, here I still am, you know? I'm still here. God, wasn't that fucking ridiculous, you know? Like, and be able to metabolize, bring it through you, digest it in a way that isn't just this kind of a blackness, but that it creates room for... laughter within the blackness, which I think is again, if for creating a life of joy, is crucial. And I think that there's power in the humor. There's power in saying, like, you know, like, this didn't destroy me. I can still laugh at you, you know, or laugh at the situation. And again, it's not, maybe it's not protection exactly, but a way of, again, sort of re-embodying the experience. And I mean, my favorite thing in the world to do is laugh, you know? I mean, that's all I want to do all the time. So I'm grateful that you found there was humor in here. Because it's dark.
Je pense que pour moi, c'est une dimension très importante de rigoler. On a tous des traumas et des tragédies dans nos vies. Il y a du deuil et parfois on se dit waouh, je suis quand même ici. Digérer cette noirceur, la digérer crée de la place pour l'humour dans le noir. Et des fois, on se dit juste « waouh ». Pour créer une vie de joie, il est crucial de pouvoir rire et de justement de créer l'espace de créer un espace pour cet humour. Ce n'est pas tant de la protection, mais un moyen de se réapproprier une expérience. Et ma chose préférée est de rire.
Et puis, évidemment, moi, ça me fait tout de suite penser... ce fameux rire des femmes. C'est-à-dire, s'il y a bien quelque chose qui qui peut nous rendre super dangereuses, c'est notre rire en tant que groupe social, en fait. Il y a un moment donné, enfin, j'ai l'impression qu'on ne fait jamais autant peur que quand on rit à l'insu des hommes, en fait. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans ce... C'est très puissant, le rire des femmes. Donc oui, rire. Et ça me fait penser, petit extrait. Donc, là, c'est Eurydice qui, alors... on est vraiment sur la toute fin. C'est vraiment dans les, peut-être même les dernières phrases de ton livre. Désolée, spoiler. Mais... Et donc, Eurydice dit « j'ai ri tellement ri. J'ai ri si fort que la pièce a tremblé, que les plaques tectoniques ont bougé, que les marées ont changé. J'ai ri et ri et ri. Et puis je me suis penchée et j'ai crié. »
I laughed. I laughed and laughed. I laughed so hard the room shook, the plates of the earth shifted, the tides changed. I laughed and laughed and laughed, and then I bent over and I screamed.
It makes me think of women's laughter in general. What makes us powerful and dangerous is when we laugh facing men. Mm-hmm. Men get scared and frightened. So yes, let's laugh.
Yeah. And that's, I think, one of the things that I think I learned writing this was people, men, are dangerous when they're scared and are dangerous when they're humiliated. I was talking to a friend about her dog, and she was saying the same thing. She was sort of saying, like, a scared dog is a dangerous dog. And I think that it's a scared man is a dangerous man. And I think humiliation is a type of fear. There's a fear of rejection, there's a fear, I mean, humiliation is a powerful human reaction that I think is the border between shame and fear, which are like, these are dangerous and powerful emotions. And I think that it provokes a lashing out, like to say, like, oh, like, you're going to laugh at me, like, you're going to make me feel humiliated. Like, this kind of surging power comes out and says, well, you know, like, look what happens now. So it is, there is a danger to it, you know, in that laughter. And there is a power to it, for sure.
Et c'est ce que j'ai, en tout cas, appris en l'écrivant. Les hommes sont dangereux quand ils sont humiliés et moqués. J'ai une amie qui me disait que son chien, quand il avait peur, il était dangereux. Et je trouve que c'est la comparaison parfaite. L'humiliation est puissante au sein de nos réactions. L'humiliation se situe entre la peur et la honte. C'est une émotion très puissante. Et en règle générale, quand cette émotion-là jaillit, eh ben elle crée un jaillissement réactionnel de réaction. Et du coup, dans cette réaction-là, qui est créé, il y a du danger et il y a un pouvoir.
Dans ton introduction ou ta préface, tu nous apprends que, en fait, tu venais de passer une saison à faire de la menuiserie et que tu avais besoin, comme tu l'as dit en tout début d'intervention, de te remuscler en tant qu'autrice. Donc, ça va maintenant? Tu te sens remusclée?
In your introduction, you tell us about the times you spent as a carpenter and re-muscling and reworking your muscles. So do you feel ready and with a lot of muscles?
Yeah. That's a, yeah, good. Yeah. So I spent 10 years working as a carpenter, which was an unexpected shift. I'd worked as a journalist, and then got sick of being in front of a screen and got this job as a carpenter, which I, as I said, did for 10 years. And I did feel very strong. Physically very strong. I'm not doing the carpentry work so much anymore. I still carve wooden spoons, which is still a good way to have the brain in the fingertips. And I recommend, if anyone is a writer or has any sort of creative pursuits that keeps you in your brain or in front of a screen, like, having some tactile side project is, I think, hugely beneficial to whatever you're up to. But the you know, the sort of physical strength and the kind of strength of confidence, maybe. You know, there is something that was, I gained something for sure in doing the carpentry work, in the sense of I can figure out how to fix things, I can build things, a competency. And I think that it takes confidence, not necessarily to write what I wrote, but to speak a story of your own life, to be able to sort of stand up and say, this was my experience of this. And that requires muscle. And I often think about writing muscles, you know, I do think about that, like, just like after I haven't written in a while, and it's just like, it's practice, you know, it's getting back into shape. And so, you know, just picking a project and just to work the mind and get used to what it is to put words together. In the same way, what it is to sort of get back into shape if you're a runner, after being away from it, like just the, you know, how awful it feels at first when you're first getting back into shape, and then it starts to come back and come back and come back. So that's a variation of all the different types of muscles.
J'ai passé 10 ans à faire de la menuiserie, donc je suis menuisière. Et avant cela, j'étais journaliste. Et en faisant cette menuiserie, en faisant de la menuiserie, je me sentais forte. J'avais plus de muscles. Maintenant, je fais encore des cuillères. Je recommande aux personnes créatives de faire quelque chose et de produire quelque chose avec ses mains. La force de la confiance en soi réside en ça. Elle est une acquisition de savoir et de compétences. Et de savoir réparer des choses, ça donne confiance en soi. Cela requiert du courage, de la confiance en soi, d'écrire son expérience. Cela nécessite du muscle. C'est un exercice. Tout comme commencer un projet et mettre des mots ensemble, c'est le même exercice que courir et se remettre à la course, en fait. Il y a de la douleur et ensuite un projet se monte et de la création s'apparente.
Merci beaucoup, Dina.
Oh, merci beaucoup. Thank you so much. These were an amazing set of questions and an amazing conversation, really. Thank you.
Et merci beaucoup, Cécilia, pour la traduction.
Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Nina McLaughlin à l'occasion de la publication de son ouvrage « Sirène debout, Ovide rechanté » aux éditions La Volte. Un grand merci à Cécilia Lopez pour la traduction. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec l'Affranchie Podcast.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.